C'est une joie, voilà, d'être dans la seule présence du Seigneur. On a les chants, on a la parole de Dieu, les différents ingrédients du culte. Ce matin, on avait aussi le repas du Seigneur. Mais la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est ce que nous voulons premièrement. S'il n'y a pas la présence de Dieu, je crois que tout le reste est futile. Mais si Dieu est là, Dieu est là, alors nous voulons rester là. Alléluia. C'est notre part, c'est notre bénédiction. J'aimerais ne pas aller plus loin. Il y a quelqu'un, eh bien, qui est à la sonorisation ce matin, qui s'occupe du son là en ce moment, et dont c'est la fête aujourd'hui. Hein? On aimerait souhaiter une bonne fête à notre pasteur Fern. Voilà. Pasteur Fern, bonne fête à toi pour tes 20 ans. 20 ans et des poussières, hein, on dit en général. Voilà. Que Dieu te bénisse richement, frère. Hein, voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, très heureux également de vous connaître aussi un petit peu plus. Hein, la semaine dernière, j'ai fait un sport pour la première fois que je n'avais jamais fait, c'est le golf. Et c'est la première fois donc, que je tenais. J'avais de bons professeurs. Hein. Ils sont où les... Ah, il est là, mon professeur. Voilà. Avec son épouse. Hein. Main droite devant la main gauche, le pouce bien devant, genou tendu. Hein, et on y va. Voilà, j'ai appris. Et ça m'a permis avant tout de connaître un petit peu plus les chrétiens que vous êtes. Et je serai heureux de vous connaître, comme a dit le pasteur Fern, davantage. Et comme cela a été dit, je ne sais pas si vous avez pu le voir à la fin, vous pourrez le faire si tel est votre désir. J'ai laissé eh bien, des petites fiches, on a laissé des petites fiches au comptoir de l'entrée. Et si vous désirez eh bien, une visite, j'aimerais passer vous voir tous et toutes, les uns les autres, vous connaître un peu davantage. Et si c'est votre souhait également, remplissez simplement cette petite fiche avec vos coordonnées, le moment où vous désirez que je passe vous voir, et je passerai vous voir très rapidement. Comme ça, on pourra échanger et je pourrai vous connaître davantage. Tel est aussi mon cœur. Merci à vous. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 13, nous allons faire la lecture jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Et je vais lire dans une version qui s'appelle la version Louis II révisée. Peut-être que certains connaissent cette version sous le nom de la Colombe. Et peu importe la version que vous avez, vous allez voir que le sens ne va pas changer. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pourrions encore une fois nous incliner et prier pour la parole de Dieu? Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Et notre cœur est disposé à t'entendre, Seigneur. Parle-nous ce matin. Par la voix de ton esprit, parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Convainc-nous encore, Jésus. Sauve-nous encore, Jésus. Nous te le demandons. Que ta grâce soit répandue abondamment dans nos cœurs, alors que nous entendons ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Connaître Jésus. Connaître Jésus. Un jour, il y avait un homme très éloquent, un spécialiste de l'art oratoire, un spécialiste des discours publics qui va donner des conférences. Et dans l'une de ces conférences, la salle était pleine devant lui et il va parler de l'art oratoire, de la manière de s'exprimer en public et il va donner quelques exemples. Et à un moment donné, s'adressant à son auditoire, il va leur dire « Dites-moi quelle pièce de la littérature française vous voulez que je vous récite et vous verrez l'art de réciter. » Alors les uns vont commencer à dire « Eh bien, cite-nous tel poème de Verlaine. » Il va réciter par cœur dans une expression parfaite. Un autre va dire « Du Bellay » et il va réciter par cœur dans une expression parfaite. Et ça allait bon train jusqu'à ce qu'à un moment donné, un homme assez âgé dans la salle a levé la main et a dit « Monsieur, j'aimerais que vous me récitiez le psaume 23. » Le psaume 23. Et cet homme, ce conférencier, va dire « Ce n'est pas commode qu'on me demande de réciter la Bible. Mais le psaume 23, je le connais et je vais vous le réciter. Seulement, monsieur, j'aimerais que juste après moi, vous puissiez venir vous aussi et le réciter. Vous êtes d'accord ? » Et ce monsieur, qui était un pasteur à la retraite, va dire « Il n'y a pas de problème. » Le conférencier a commencé à dire le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » et il va poursuivre. Et quand il avait terminé, toute la salle a applaudi en disant « Waouh, quel discours !» C'était bien récité. Ensuite, il a laissé la place à ce brave vieux pasteur en lui disant « C'est à votre tour maintenant. » Le vieux pasteur est monté sur l'estrade et il va prendre le micro et il va à son tour commencer. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il va poursuivre jusqu'à la fin de ce psaume. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et quand il avait terminé, la salle était dans le silence. Des hommes et des femmes qui étaient là ont commencé à pleurer. Ils étaient touchés par la parole de Dieu. Et le conférencier a pris le micro derrière en disant « Moi, je connais le psaume 23. Lui, il connaît le bon berger. » Lui, il connaît le bon berger. Connaître Jésus. Connaître Jésus. Si vous me demandez qu'est-ce qui définit un chrétien, c'est quoi un chrétien ? J'aimerais vous donner cette réponse toute simple. Le chrétien connaît Jésus. Le chrétien connaît Jésus. Être chrétien, ce n'est pas avoir une nouvelle religion. Être chrétien, ce n'est pas ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ça, c'est la religion. Ça, ce sont les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, ce ne sont pas les efforts qu'on doit faire pour atteindre Dieu. Parce que si c'était le cas, ni vous ni moi ne serions sauvés. L'évangile, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. C'est lui qui a fait l'effort. C'est lui qui s'est offert. L'évangile, c'est la grâce de Dieu pour nous. Si ce n'est pas une religion, si ce ne sont pas des efforts à faire pour atteindre Dieu, frères et sœurs, chers amis, que devons-nous faire donc pour être chrétiens ? Je l'ai dit tout à l'heure, connaître Jésus. C'est ce que Paul va articuler dans ses lettres. On dirait que ce qui lui importait, il va le dire, c'est le connaître et la puissance de sa résurrection. La vie éternelle, va dire Jésus, dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, c'est te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Le connaître. Les deux questions, pardon, que va poser Jésus sont quand même très pertinentes. Il les pose à un lieu précis, Césarée de Philippe. Si vous avez des annotations de texte, si votre Bible est une Bible d'étude, vous verrez que Césarée de Philippe est une ville qui a été fondée par un certain Philippe le Tétrarque, et elle se situe près des sources du Jourdain. Vous savez, le Jourdain, là où les gens venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés, là où Jésus lui-même a été baptisé, eh bien, les sources du Jourdain étaient là. Chers amis, Jésus nous donne la définition même de ce qui doit être la source de notre Jourdain à nous, la source de notre baptême. Vous savez, le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans les eaux du baptême, il n'y a pas quelque chose qui se passe. C'est symbolique. C'est un acte par lequel on s'engage avec Dieu. Quand on entre dans les eaux du baptême et que l'on ressort, c'est symbolique. Je meurs en Christ, je ressuscite en Christ pour vivre une vie nouvelle avec Jésus. Ni plus ni moins. Mais quelle est l'expérience, quelle est la source qui amène cet engagement? Parce que si on prend un engagement pour prendre un engagement, avec le Seigneur, ça ne tiendra pas. Quelle est la source? Source du Jourdain ici, source de notre engagement. C'est connaître Jésus. Qui est Jésus? Les deux questions que pose Jésus, qui dit-on que je suis? Que disent les autres? Et ensuite, qui dites-vous que je suis? Que disent les autres? Mais moi, qu'est-ce que je dis? On vit dans un monde, dans une société où, je ne sais pas chez Diac, mais certainement pas chez Diac, vous êtes une perle, vous êtes à part. Mais de là où je viens, à l'île de la Réunion, ou même dans la France, dans tout ce monde occidental, en Europe, il y a un fait qui prend de plus en plus de poids et d'importance. C'est ce que disent les autres. Je vais vivre, non pas en fonction de ce que je veux, mais en fonction de ce que vont dire les autres. Si les autres trouvent que je suis beau, alors je suis beau. Si les autres ne me trouvent pas beau, c'est certainement que je ne suis pas beau. Si les autres disent que je suis méchant, c'est que je suis méchant. Si les autres disent que je suis gentil, c'est que je suis gentil. Si les autres me trouvent nice, c'est que je suis nice. Alors, toujours les autres, toujours en fonction des autres. Et ça a donné lieu à toutes sortes de modes. On appelle cela chez nous la télé-réalité. Et pourquoi? Parce que il faut que les autres voient pour savoir ce qu'on en dit. Qu'est-ce qu'on va dire? Les réseaux sociaux. Je fais la photo de mes nouvelles choses. De mes nouvelles chaussures. Vous trouvez comment? C'est beau ou c'est pas beau? Si c'est beau, c'est bien. Si c'est pas beau, donc il faut que je change. On fait sa vie en fonction de ce que les autres vont dire. Mais connaître Jésus ne dépend pas des autres. Connaître Jésus ne dépend pas des autres. Et quand on vit notre vie chrétienne, ça ne dépend pas des autres. C'est toi, c'est moi qui vivons notre vie chrétienne avec Jésus. C'est personnel. C'est personnel. Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes de l'Ancien Testament. En effet, Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Et Hérode même pensait que Jean-Baptiste était ressuscité, qu'il était revenu à la vie. Jean-Baptiste a eu un grand ministère. Vous avez remarqué que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun. Jésus a dit pourtant que c'était le plus grand homme né d'une femme sur la terre. Le plus grand homme. Jean-Baptiste a préparé le chemin par la prédication de la repentance, le baptême de la repentance. Il a préparé le chemin du Seigneur. Jésus est arrivé derrière. Grand ministère. Mais Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Jésus était beaucoup plus que Jean-Baptiste. Plus. D'autres disent que tu es Élie. Pourquoi disait-il cela? Parce que selon les prophètes, Élie devait revenir. Vous vous rappelez, Élie faisait partie de ces très très rares personnes qui n'ont pas vu la mort. Il n'est pas mort, il a été enlevé au ciel. Donc, selon les prophéties, Élie devait revenir. Mais il n'avait pas compris que c'était dans un sens figuré. L'Élie qui devait revenir, c'était Jean-Baptiste. Voilà. Mais il pensait qu'Élie allait revenir. Et en voyant Jésus parler et agir, il se disait certainement, c'est lui, Élie, il est revenu. Élie a eu un grand ministère. Élie a fait descendre le feu du ciel. Il a confondu des faux prophètes. Élie a fait tomber la pluie par sa prière. Élie a fait de grandes choses, de grandes choses. Mais Jésus est beaucoup plus qu'Élie. Beaucoup plus. Jérémie, un grand prophète, Jésus était beaucoup plus que Jérémie. Jésus est beaucoup plus que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Beaucoup plus. Ce que disent les autres. Vous voyez que si on s'arrêtait à ce que disaient les autres, on était quand même bien au-dessous. Bien au-dessous. Et Jésus se retourne vers ses disciples et il leur dit, mais vous, qui suis-je pour vous? Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Un pasteur des Assemblées de France, des Assemblées de Dieu de France, pardon, a écrit un livre qui s'intitule « Jésus, ce célèbre inconnu ». Ce célèbre inconnu. Son nom est connu de tous, mais lui-même, il est tellement peu connu. Tellement peu connu. Pourtant, je le disais, je le répète, la vie chrétienne, c'est le connaître lui. Que dites-vous? Qui est Jésus pour toi? C'est tout ce qui compte. Quel que soit ton âge, quelle que soit l'origine sociale eh bien, qui est la tienne, qui est Jésus pour toi? Quelle que soit ta famille, quelles que soient tes épreuves, tes difficultés, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Qui dites-vous que je suis? Peut-être qu'en posant cette question, dans ton cœur, il y a un grand vide, un grand point d'interrogation. Peut-être que finalement, tu te dis, j'aime bien ce que j'entends de Jésus, mais qui il est pour moi, je ne saurais pas trop quoi dire. Pierre va donner la réponse. Et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus, tu n'es pas un prophète. Jésus, tu n'es pas seulement un homme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comprenez que lorsque Pierre s'exprime ici, ça ne peut pas venir de lui. C'est impossible. Ça ne peut pas venir de son intellect, de ses conclusions, de réflexions. Ça ne peut pas. Les Juifs attendaient le Messie, le Christ. Et les spécialistes, les docteurs de la loi disaient que c'est impossible que Jésus soit le Christ. Mais Pierre dit, si, c'est le Christ. Il est le Christ. Pour les Juifs, personne ne pouvait se faire égal à Dieu. Personne ne pouvait s'appeler fils de Dieu. Et Pierre dit, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? pour que nous encore aujourd'hui, en 2025, on puisse dire Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ. Qu'est-ce qui se passe en nous? Chers amis, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas du simple fait d'être d'accord avec une prédication, avec un mouvement. Non, non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux. Et voyez-vous, Jésus dit à Pierre, tu es heureux, non pas parce que tout d'un coup il y a $1 million sur son compte. Il ne lui dit pas, tu es heureux parce que tu as une belle nouvelle voiture. Il ne lui dit pas, tu es heureux parce que tu as une belle nouvelle maison. Tu es heureux, Pierre, tu as trouvé une belle femme. Tu es heureux, Pierre, tu as des merveilleux enfants. Ce n'est pas ce qu'il est en train de lui dire. Tu es heureux parce que tu as pu recevoir dans ton cœur que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voyez-vous, c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu de l'Église. Nous le verrons dans un instant. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce qu'il confesse ici est beaucoup plus vrai, beaucoup plus précis, beaucoup plus profond que ce que les autres disaient. Quand on vit ce que l'on vit avec Jésus, c'est plus vrai, c'est plus précis, c'est plus profond. Et j'aimerais te dire que tu as des choses à vivre avec Jésus. Tu as des choses à vivre avec Jésus. Jésus, ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Jérémie, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme. Ce n'est même pas un homme qui s'est élevé au-dessus des autres. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Ce n'est pas un homme qui est monté, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est descendu. Jésus. Il est venu, eh bien, sous la forme humaine, étant parfaitement fils de Dieu et parfaitement fils de l'homme. Ça, ça dépasse notre intelligence. Comment peut-il être parfaitement fils de Dieu, parfaitement fils de l'homme? Jésus n'est pas un monstre de la mythologie. Il n'est pas moitié Dieu, moitié homme. Il est entièrement fils de Dieu et entièrement fils de l'homme. Il est venu sur la terre des hommes avec un but à accomplir, le salut de l'humanité. Conçu dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Comprenez par là que Marie n'a en rien donné sa nature à Jésus. Marie n'a fait que porter l'enfant qu'a conçu le Saint-Esprit en elle. Marie a donné naissance à cet enfant. Il a grandi comme n'importe quel autre enfant jusqu'à ses 30 ans. Et jusqu'à ses 30 ans, Jésus a été un juif parmi les juifs. Il est entré dans ce Jourdain pour être baptisé. Et en sortant de ce Jourdain, c'est là que tout commence. Le Saint-Esprit descend du ciel sous la forme corporelle d'une colombe et s'arrête sur Jésus. Et une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ou si vous préférez, « C'est le seul que j'approuve entièrement. » C'est ce que ça signifie profondément. « C'est le seul que j'approuve entièrement. » C'est lui. C'est lui. Jésus a commencé son ministère et il est beaucoup plus que Jean-Baptiste, beaucoup plus qu'Élie, beaucoup plus qu'un prophète. Jésus, quand il parlait, quand il enseignait, la foule même disait qu'il n'enseigne pas comme nos scribes, mais il enseigne avec une autorité qui nous dépasse. Jésus a fait connaître par son enseignement le royaume de Dieu, ce qui était caché aux hommes jusqu'alors. Jésus a fait des prodiges, des signes et des miracles pour appuyer son enseignement. Et les signes, les prodiges et les miracles n'étaient pas un but en soi, mais le moyen par lequel, les hommes allaient pouvoir tourner le regard vers le Seigneur. Les signes, les prodiges, les miracles. Les signes, j'aime bien ce mot parce que dans l'anglais que vous maîtrisez mieux que moi, hein, il est très parlant. The signs, hein, ça indique. Ce n'est pas un but. Parfois, les hommes et les femmes viennent à Jésus pour un miracle. Mais le miracle, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. Quand Jésus fait un miracle, c'est pour tourner nos yeux vers le Seigneur. C'est pour qu'on tourne nos regards vers le Seigneur et que l'on soit sauvé. Le miracle n'est pas le salut. Le miracle conduit au salut. Jésus accomplit des miracles. Et il fait encore des miracles aujourd'hui, alléluia. Il fait encore de grandes choses, de grandes choses. Vous vivez certainement des choses ici à Chédiac, à l'île de la Réunion, quand l'évangile a été annoncé. Je racontais cela à quelques-uns au milieu de nous. Quand le missionnaire a quitté la France et est venu annoncer l'évangile pour la première fois en 1966, à l'île de la Réunion, c'était une île de ténèbres et de sorcellerie. Beaucoup de sorcellerie, beaucoup de cultes à des démons. Ma famille, ma propre famille, pratiquait l'hindouisme. Et il y avait un tel déferlement de démons que lorsque mon propre père touchait la main de sa maman, il était enfant, adolescent, quand il touchait la main de sa maman, quoi de plus eh bien, normal pour un enfant que de prendre la main de sa mère? Et quoi de plus eh bien, sécurisant que de prendre la main de sa maman? Mais quand mon père touchait la main de sa maman, il voyait un démon devant lui. Sa maman était possédée. Quand l'évangile est venu dans la vie de ma famille, du côté de mon père, ma grand-mère, donc la mère de mon père, a été délivrée des démons. Délivrée. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des miracles. Et au nom de Jésus, elle a été délivrée. Les démons ont été chassés. Ma grand-mère maternelle, ma grand-mère du côté de ma maman, elle était malade et sa maladie était incurable. Elle était atteinte d'un ulcère à l'estomac. Et elle était allée voir tous les médecins possibles, aucune guérison. Elle était allée voir tous les sorciers possibles. Elle était allée venir faire des cérémonies pas possibles. À minuit, près des rivières, avec des sorciers malgaches, des sorciers hindous. Il y avait toutes sortes d'incantations. Il y avait des choses bien qu'ils faisaient dans les cimetières. C'était ténébreux. Mais elle n'était jamais guérie. Et quand l'évangile est venu sur l'île de la Réunion, quand l'évangile a été prêché, ma grand-mère a été invitée. Elle est allée écouter l'évangile. Et ce soir-là, le premier soir où elle a écouté l'évangile, elle a été instantanément guérie. Instantanément. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles, mais le miracle n'est pas le but. Combien d'hommes et de femmes ont connu le miracle, mais n'ont pas connu Jésus? Le salut, c'est le connaître lui. C'est lui, c'est lui. Alors, le Fils de Dieu est venu, prêchant, faisant des signes, des prodiges, des miracles, mais il est aussi allé jusqu'à la croix. Nous l'avons célébré tout à l'heure, rappelé tout à l'heure. Il est mort pour nos péchés. Et là, c'est le salut. Il est mort pour nos péchés. Son sang a coulé, son corps a été meurtri pour nos péchés, pour nos iniquités. Nous aurons l'occasion de voir par la suite dans les différents enseignements tout le poids du péché que Jésus a porté et comment il a vaincu la mort. Comment il a vaincu nos péchés, comment il a pris sur lui pour nous en débarrasser définitivement. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est ressuscité 3 jours après. Et il est monté s'asseoir. Après être apparu, la Bible nous dit, écoutez bien, devant plus de 500 témoins. 500 témoins ont vu Jésus ressuscité. Et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu et aujourd'hui il est vivant. Le Jésus que nous prêchons est vivant. Et il nous baptise du Saint-Esprit. Il nous baptise du Saint-Esprit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà le Jésus que nous devons connaître. Voilà le Jésus que nous devons rencontrer. Pourquoi ? Parce que Jésus va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est là où peut-être ça nous intéresse aussi ce matin, je bâtirai mon église. Mon église. Le fondement de l'église, c'est quoi ? Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un principe, ce n'est pas ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Le principe de l'église, le fondement de l'église, c'est quoi ? C'est la révélation de Jésus-Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus, quand il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », c'est sur sa confession. Et sa confession est une révélation. Une révélation. Jésus veut se révéler à nos cœurs. Jésus veut se révéler à nos vies telles qu'il est. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père. C'est-à-dire que ça ne viendra pas de nos efforts, ça ne viendra pas de tout ce que l'on va faire pour, mais cela vient du Saint-Esprit qui nous conduit à rencontrer Jésus. Et quand le Saint-Esprit révèle Jésus à nos cœurs, alors il y a là la réalité de Jean 3 qui se dépeint à nous. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 3, un docteur de la loi vient voir Jésus la nuit parce qu'il ne veut pas être vu par les autres. Et il va dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il est pas mal, Nicodème, hein ? Il est bien, il est bien. Mais Jésus lui répond, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau, la nouvelle naissance. Quand on rencontre Jésus, on peut naître de nouveau. Devenir une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, va dire Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance est marquée par notre rencontre personnelle avec Jésus ou, si vous préférez, au moment où Jésus est révélé à notre cœur. On voudrait tellement que les hommes, que les femmes qui nous entendent, on aimerait tellement les persuader pour qu'ils deviennent chrétiens, n'est-ce pas ? Tellement. Quand on rencontre des perdus qui sont parfois dans toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'addictions, qui ne peuvent plus se sortir de leur passion, on aimerait tellement, n'est-ce pas ? Tellement leur dire « Mais viens à Jésus !» Viens à Jésus, on voudrait tellement. Mais la persuasion ne marche pas. On a des enfants. Moi, j'ai 4 enfants. J'aimerais tellement tous les persuader de donner leur vie à Jésus, mais la persuasion ne marche pas. Ça ne vient pas de la persuasion, ça vient d'une révélation. Voilà pourquoi, au lieu d'essayer de persuader avec nos mots et nos discours, il faut beaucoup prier, parce que ça vient d'une révélation. Et quand le Saint-Esprit révèle Jésus à un cœur, l'âme peut être sauvée. Alléluia. L'âme peut être sauvée. Cette nouvelle naissance vient de la révélation de Jésus. On veut tous que l'église de Shédiac soit remplie, n'est-ce pas ? Mais j'aimerais vous dire une chose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je ne suis pas venu pour que l'église de Shédiac soit remplie. Je suis venu pour que le ciel soit rempli d'habitants de Shédiac. C'est différent. Et si le ciel est rempli d'habitants de Shédiac, vous n'en faites pas, l'église sera remplie. Mais ce qui nous intéresse, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés. Ce n'est pas seulement que des hommes et des femmes viennent, que des hommes et des femmes entendent, mais qu'ils soient sauvés. Et pour cela, il faut rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. La révélation de Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Je bâtirai mon Église sur ce que tu viens de dire, Pierre, sur la révélation que tu as. Je bâtirai mon église. Et c'est comme cela que chacun de nous, nous serons les pierres vivantes. Et l'église va monter, l'église va s'édifier, d'autres pierres vont se rajouter. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre cette communion avec Jésus. On va vivre cette relation avec Jésus. Christ n'est pas un étranger pour nous. Il a été révélé, révélé à notre cœur. Et enfin, la révélation de Jésus-Christ est l'autorité de l'église. Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera dédié dans les cieux. » C'est fort ce que Jésus est en train de dire à l'apôtre. C'est très fort. Je ne sais pas si vous réalisez un seul instant. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera dédié dans le ciel. Les hommes que nous sommes, les femmes que nous sommes, je pense qu'avoir un tel pouvoir, c'est dangereux, non ? C'est dangereux. Dans le grec, ici, c'est la langue originale du Nouveau Testament. La concordance des temps fait que on peut lire ce passage différemment. Et il serait un peu plus juste de le lire ainsi. Et moi, pardon, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre aura été délié dans les cieux. C'est-à-dire que dans l'ordre chronologique, Dieu fait dans le ciel et nous, on le fait sur la terre. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que l'autorité de Dieu est prononcée dans le ciel et sur la terre, nous accomplissons cette autorité. Voyez-vous, c'est différent. Ça montre bien que Dieu reste Dieu. Parce que si c'était l'inverse, c'est nous qui deviendrions Dieu, vous comprenez ? Si eh bien, nous lions ensuite Dieu fait, il y aurait un problème. Mais si c'est Dieu qui fait et nous qui exécutons, là c'est l'ordre des choses. Mais pour cela, vous comprenez, il faut rester dans cette révélation. Parce que si nous ne restons pas dans la révélation, dans la communion avec Jésus, comment saurons-nous ce qui aura été lié dans le ciel ? On ne le saura pas. Mais si nous restons en communion avec Jésus, on le saura. Regardez l'apôtre Pierre. Jamais, jamais, au grand jamais, il ne serait allé chez Corneille, un païen, lui qui est juif. Mais jamais, c'était interdit. Mais comment a-t-il pu aller ? C'était la volonté de Dieu, bien sûr. Comment a-t-il pu aller ? Parce que le Seigneur lui a révélé. Par cette vision, il était en train de prier. Par cette vision. Pierre n'a fait que rester en communion avec Dieu. Et dans cette communion, le Seigneur lui a parlé. Alléluia. Jésus a fait des miracles, des signes et des prodiges. Oui, mais il n'a pas fait parce qu'il avait envie. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que Jésus n'a pas guéries ? C'est bizarre de dire ça. Mais il y a des malades que Jésus n'a pas guéris. Acte 3, le boiteux à la porte du temple appelé la belle. Ça faisait 2 jours qu'il était là ? Non, il était boiteux de naissance et la Bible nous dit que tous les jours on venait le mettre ici. Jésus, combien de fois il est monté au temple ? Croyez que jamais il n'avait croisé ce boiteux ? Mais bien sûr que si, il ne l'a pas guéri. Pourquoi ? Ce n'était pas à lui de guérir, c'était à Pierre et Jean. Vous comprenez ? Dans le ciel, ce n'était pas encore prononcé. Jésus n'a pas fait. C'est ce qu'il va dire. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais il rapporte ce qu'il a vu faire au Père. Ce qui aura été lié dans le ciel. D'abord, c'est ce que vous pourrez lier sur la terre. L'Église a une grande autorité. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, quand nous vivons la révélation de Jésus-Christ, nous sommes connus dans le ciel. Nous sommes connus par Dieu, nous sommes connus par le Fils de Dieu, nous sommes connus par le Saint-Esprit, nous sommes connus par les anges, nous sommes aussi connus par les démons. Sauf qu'ils ont peur. Ils ont peur. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'occasion de Paul ? Quand Paul exerçait son ministère, il y a eu 7 frères. Hein, 7 frères. Moi, j'ai 5 frères. Nous sommes à 6. On n'était pas loin. Hein. Mais il y avait 7 frères qui étaient fils d'un certain Séva, qui allaient de lieu en lieu eux aussi et qui chassaient des démons et qui disaient au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Eux, ce n'était pas le Jésus qu'ils prêchaient. C'était le Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon leur disait quoi? On connaît Jésus et on connaît Paul. On connaît Jésus et on connaît Paul. Mais toi, qui es-tu? On ne te connaît pas. Et la Bible nous dit que ce ne sont pas les fils de Séva qui ont chassé le démon. C'est le démon qui a chassé les fils de Séva. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas connus d'en haut. Quand on connaît Jésus, on est revêtu de l'autorité de Jésus. Et nous sommes connus dans le ciel. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans ce bâtiment qu'on appelle l'Église. On est bien. Mais chez nous, souvent, beaucoup de choses sont différentes. Quand nous sommes chez nous, nous vivons une routine quotidienne. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes chrétiens ici, gloire à Dieu. Mais nous sommes aussi chrétiens chez nous, n'est-ce pas? On est chrétien aussi quand on va faire nos courses. On est chrétien aussi quand on va travailler. On est chrétien tous les jours. Et quand on connaît Jésus, on le connaît tous les jours. Quand on vit la révélation de Jésus, on la vit tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une grande autorité tous les jours. Alléluia. Une grande autorité. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume, les séjours des morts ici, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur l'Église. Alléluia. Le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur notre famille. Le royaume des ténèbres n'a aucun pouvoir sur nos enfants. Laissez-moi eh bien, vous donner ce témoignage. Après, je conclurai. J'ai un très bon ami qui est pasteur en Inde. Il est venu assez souvent à La Réunion. C'est un très bon ami à nous. Et il nous rendait ce témoignage. Et il nous disait que un jour, un homme est venu dans son église en Inde. Vous savez, c'est différent. C'est pas comme à Chediak, c'est pas comme à La Réunion. En Inde, les chrétiens sont persécutés. Ils sont mis en prison. Ils sont battus. Ils sont parfois assassinés. On brûle leur maison. Ce n'est pas que croire en Jésus, c'est un problème pour eux. Parce que vous savez que les hindous, ils ont 30 millions de dieux. Plus de 30 millions de dieux. Donc, un dieu de plus, ce n'est pas un problème pour eux. Le problème, c'est que quand un hindou croit en Jésus, il abandonne les autres dieux. Et c'est ça le problème pour eux. Alors, un jour, alors qu'il était dans son église et que les personnes venaient pour se faire baptiser, il y a eu un prêtre hindou qui était venu pour se faire baptiser aussi. Et lui, il était surpris. Et il a dit, mais tu viens te faire baptiser? Il a dit oui. Et il a rendu témoignage devant l'église. Et il a dit, je veux donner ma vie à Dieu. Et tout le monde était surpris parce qu'il était connu dans la ville et dans le quartier pour être un prêtre hindou, mais vraiment avec de grandes sorcelleries, de grandes puissances démoniaques. Et il va dire, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le soir, j'envoyais les mauvais esprits sur la maison des chrétiens. Il faisait des incantations et envoyait des mauvais esprits. Et il disait, quelques minutes après, les mauvais esprits revenaient. Et il leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas restés? Et les mauvais esprits lui répondaient, on ne peut pas entrer dans ces maisons-là parce qu'il y a le sang de Jésus dessus. On ne pouvait pas. Et ce prêtre hindou va dire, je veux donner ma vie à ce Dieu-là. À ce Dieu-là. Le sang de Jésus est sur notre vie. Le sang de Jésus est sur notre famille. Le sang de Jésus est sur notre maison. Les démons n'ont pas de pouvoir. Nous ne pouvons pas, mes frères, mes sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas savoir imaginer toute la puissance des ténèbres. La Bible nous dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Le monde entier. Même des coins, les coins les plus beaux, les plus paradisiaques, l'île de la Réunion est une belle île. Hein ? Mais l'île de la Réunion gît sous le pouvoir du malin, malheureusement. Il y a de belles plages, de belles montagnes, mais il y a aussi la puissance du malin. On a vu que Shediac est très beau. Hein ? Très beau. Avec Sophie, avec les enfants, on trouve que c'est vraiment une très belle ville et un très bel endroit. Très beau, très tranquille. Mais est-ce que vous savez que Shediac gît sous le pouvoir du malin aussi ? La Bible dit bien le monde entier. La Bible dit pas le monde, mais pas Shediac. Hein ? Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Le monde a besoin de la lumière. Shediac a besoin de la lumière. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Et il veut se révéler à nos cœurs. Alors, j'aimerais que l'on prie quelques instants, si vous êtes d'accord. Jésus veut se révéler à des cœurs. Jésus veut se révéler à des vies. Il y a ce que les autres disent. Je ne sais pas ce que les autres t'ont dit de Jésus ce matin. La foi des autres, c'est la foi des autres. J'aimerais te dire, la foi de tes parents, c'est la foi de tes parents. La foi de ton frère ou de ta sœur, c'est sa foi. Mais toi, qui dis-tu de Jésus ? Que dis-tu de Jésus ? Qui est Jésus pour toi, toi qui m'entends ? Si tu ne sais pas, j'aimerais te dire que par le Saint-Esprit, Jésus veut se révéler à ton cœur. Qu'il y a une expérience à vivre avec Jésus là, ce matin. J'aimerais t'inviter à te courber quelques instants. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es vivant et tu es tout puissant. À ton nom, nous donnons gloire ce matin, car tu es digne, digne de nos louanges, digne de notre adoration. Seigneur, rien ni personne n'est comparable à toi, Jésus. Et nous donnons gloire à ton nom pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous te donnons gloire. L'Église te donne gloire ce matin. Jésus, puisque tu es vivant, tu te révèles à un cœur. Tu te révèles à une âme. Tu veux sauver et sauver parfaitement ceux qui espèrent en toi. Tu vois, Seigneur, ceux qui ont soif de toi, viens, je te prie. Viens dans leur vie, viens dans leur cœur. Manifeste de ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Guéris un cœur. Guéris une âme. Guéris, Seigneur, des blessures du passé. Viens guérir, Seigneur, des morsures de l'ennemi. Viens guérir, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous donnons gloire à ton nom. Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu. Souffle dans nos cœurs. Souffle dans nos vies. Nous nous attendons à toi. Et que l'église de Shediac soit bénie. Que le centre Nouvelle Vie soit béni. À toi la gloire. Merci Jésus. Amen.